Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 janvier 2026. Sujet, vie. Texte d'or, Romains. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture alternée. Proverbe. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. La Bible. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jésus dit « en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. En tant qu'adhérents de la vérité, nous prenons la parole inspirée de la Bible comme notre guide suffisant pour atteindre à la vie éternelle. Connaître les textes originaux et être disposé à renoncer aux croyances humaines établies par des hiérarchies et suscitées quelquefois par les pires passions des hommes, c'est ouvrir le chemin pour que la science chrétienne soit comprise et faire de la Bible la carte de la vie où sont indiquées les bouées et les courants guérisseurs de la vérité. Celui à qui le bras du Seigneur est révélé aura foi en notre témoignage, et il s'élèvera à une vie nouvelle par la régénération. Voici ce qu'est la vie éternelle, dit Jésus. Ce qu'est, non ce que sera. Et ensuite il définit la vie éternelle comme une connaissance présente de son Père et de lui-même, la connaissance de l'amour, de la vérité et de la vie. Voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les Écritures disent, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cela montre que la vérité est la vie réelle de l'homme. Mais le genre humain refuse de mettre cet enseignement en pratique. Nous marchons dans la voie de la vérité et de l'amour en suivant l'exemple de notre maître dans la compréhension de la métaphysique divine. Le christianisme est la base de la vraie guérison. Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l'amour dégagé du moi reçoit directement le pouvoir divin. Je fus appelé à Lynn auprès de Monsieur Clark, qui était alité depuis 6 mois par suite d'une coxalgie causée par une chute sur un pieu pointu quand il était tout jeune. Comme j'entrais dans la maison, je rencontrai son médecin qui me dit que le patient était mourant. Le médecin venait de sonder l'ulcère à la hanche et dit que l'os était carié sur plusieurs centimètres. Il me montra même la sonde qui témoignait de cet état de l'os. Le médecin sortit. Monsieur Clark était couché, les yeux fixés et éteints. La sueur de la mort perlait à son front. Je m'approchai de son chevet. Au bout de quelques instants, son visage changea. La pâleur de la mort fit place à un teint naturel. Ses paupières se fermèrent doucement et sa respiration devint normale. Il dormait. Au bout de 10 minutes environ, il ouvrit les yeux et dit « Je me sens renaître. Je n'éprouve plus aucune souffrance. » Cela se passa entre 3 et 4 heures de l'après-midi. Je lui dis de se lever, de s'habiller et de souper avec sa famille. C'est ce qu'il fit. Le lendemain, je le vis dans son jardin. Depuis lors, je ne l'ai plus revu, mais on me dit qu'il retourna à son travail au bout de 15 jours. La plaie cessa de suppurer et fut guérie. Cet état morbide avait duré depuis l'accident survenu dans son jeune âge. Depuis sa guérison, j'ai appris que son médecin prétend l'avoir guéri et que sa mère avait été menacée d'incarcération dans une maison d'aliénés pour avoir déclaré « Seul Dieu et cette femme l'ont guéri ». Je ne puis attester l'exactitude de cette assertion, mais en ce qui concerne ce que j'ai vu et ce que j'ai fait pour cet homme et ce que son médecin a dit de son cas, tout s'est passé exactement comme je l'ai raconté. Le fait que le Christ, ou la vérité, vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui pour les sens semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. L'homme de douleur comprenait mieux que personne le néant de la vie et de l'intelligence matérielle et la puissante réalité de Dieu, le bien, qui renferme tout en lui. Ce sont là les deux points cardinaux de la guérison entendement ou science chrétienne qui lui donnèrent pour arme l'amour. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. Jésus dit en substance, « Celui qui croit en moi ne verra pas la mort, c'est-à-dire celui qui perçoit la vraie idée de la vie perd sa croyance à la mort. Celui qui a la vraie idée du bien perd tout sens du mal et de ce fait pénètre dans les réalités impérissables de l'esprit. Celui-là demeure dans la vie qui ne provient pas du corps, incapable de soutenir la vie, mais de la vérité qui développe sa propre idée immortelle. Jésus donna la vraie idée de l'être, il en résulte pour les mortels des bienfaits infinis. Paul écrit dans son épître aux Colossiens, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, sera manifesté, alors vous paraîtrez aussi, serez manifestés avec lui dans la gloire. Quand l'être spirituel sera compris dans toute sa perfection, toute sa continuité et toute sa puissance, alors on verra l'homme à l'image de Dieu. Voici la signification absolue des paroles apostoliques. Alors on trouvera que l'homme est sa ressemblance, parfait comme le Père, indestructible dans la vie, caché avec Christ en Dieu, avec la vérité dans l'amour divin, où le sens humain n'a pas vu l'homme. J'ai exposé la science chrétienne et son application au traitement de la maladie exactement comme je les ai découvertes. Par l'entendement, j'ai démontré les effets de la vérité sur la santé, la longévité et les mœurs des hommes. et je n'ai rien trouvé dans les anciens systèmes, ni dans les modernes, qui puisse servir de base à mon propre système, en dehors des enseignements et des démonstrations de notre grand maître, et de la vie des prophètes et des apôtres. La Bible a été ma seule autorité. Je n'ai pas eu d'autre guide dans le chemin droit et resserré de la vérité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.